Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Peut-on être chrétien et franc-maçon ? Pour certains, la question ne se pose pas, tant les symboles présentés par la franc-maçonnerie empêchent la compréhension et le discernement. L'Église, dès 1738 par la voix du pape Clément XII, alertait sur l'incompatibilité entre la foi chrétienne et l'appartenance à une loge maçonnique. Et aujourd'hui, différentes loges maçonniques utilisent la Bible. Certains rites maçonniques s'inspirent même de rituels chrétiens, ce qui renforce la confusion. Nous vous proposons aujourd'hui des éléments de discernement dans Vivante Église. Pour nous éclairer sur cette question essentielle de l'incompatibilité de la foi chrétienne avec la franc-maçonnerie, nous sommes avec Serge Abad Gallardo. Bonjour monsieur.
Bonjour madame et bonjour également à tous vos auditeurs et auditrices.
Et merci à vous d'avoir fait le chemin jusqu'à RCF Carcassonne pour cette émission en duplex. Vous avez fait partie, Serge Abad Gallardo, pendant 24 ans de l'obédience maçonnique mixte et internationale du droit humain. Et vous avez aussi visité plusieurs autres obédiences comme le Grand Orient de France ou la Grande Loge de France. Et vous êtes l'auteur de La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture. C'est chez Arthège. Serge Abad Gallardo, vous êtes revenu à la foi chrétienne il y a 13 ans. Et vous avez écrit pas moins de 8 ouvrages sur la franc-maçonnerie. Pourquoi un tel engouement ?
Alors, il faut vous dire que la franc-maçonnerie s'obstine depuis la déclaration d'incompatibilité du Vatican à considérer qu'on peut être franc-maçon et catholique. Ce qui, à mon avis, est au mieux une conception erronée. Au pire, un mensonge. J'aurais tendance à opter pour l'un et pour l'autre, sachant que de nombreux francs-maçons sont complètement intoxiqués par ce mensonge qui provient généralement des dignitaires qui, eux, savent très bien ce qu'il en est. Ce que je dois vous donner comme information et donner également à vos auditeurs en préalable, parce que c'est déterminant, c'est que les dignitaires s'acharnent également à dire qu'il y a plusieurs franc-maçonneries. En réalité, il y a une seule franc-maçonnerie qui est divisée en de nombreuses obédiences et qui pratique différents rites. La plupart des obédiences utilisent tous les rites. Je cite par exemple de mémoire un franc-maçon célèbre, franc-maçon et sataniste également, qui s'appelait Mazzini, grand révolutionnaire italien et grand maître également, je crois, de la franc-maçonnerie italienne. Mais je cite également une source beaucoup plus proche de nous, la Grande Loge nationale française témoigne de cette unicité de la franc-maçonnerie, même si elle se manifeste à travers des formalismes un peu différents. Le fond est le même. Pour que les auditeurs comprennent mieux. En fait, c'est un petit peu comme si l'on regardait la religion catholique et qu'on voulait affirmer qu'il y a plusieurs religions parce que certains sont d'inspiration de spiritualité thérésienne, d'autres franciscaines, d'autres mariales, vous voyez. Donc en fait, ce sont différentes formes d'expression d'une spiritualité, je mets de gros guillemets à spiritualité, maçonnique.
Oui, bien sûr. Je le disais en introduction, vous avez appartenu à une loge franc-maçonne. Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qu'un chrétien peut aussi trouver dans une telle organisation qui viendrait répondre à une soif spirituelle ?
Alors, vous me permettrez d'être un petit peu brutal, je répondrai rien, rien.
Rien.
Je citerai également Maurice Caillé, qui aujourd'hui est décédé et dont je ne doute pas qu'il soit proche du père, qui a eu, avec 20 ans avant moi, à peu près le même parcours, sauf qu'il n'était pas baptisé, moi je l'étais, voilà. En fait, Maurice Caillé nous dit, si on est dans l'Église et qu'on a le Christ, de quoi avons-nous besoin de plus ? Et il a entièrement raison.
Pourquoi aller chercher ailleurs ?
Exactement. Alors, ce qui attire souvent, que ce soit les chrétiens ou les autres, en franc-maçonnerie, c'est la notion de secret. D'ailleurs, dans le 12e degré du rite écossais, ancien et accepté que je connais bien, puisque vous l'avez dit, j'ai pratiqué pendant 24 ans. L'une des caractéristiques du secret est de, comment dire, de titiller la curiosité afin de susciter l'envie de pénétrer en franc-maçonnerie. Voilà. Donc, c'est vrai que tout homme, toute femme se pose la même question existentielle de savoir pourquoi nous sommes sur Terre. Voilà. Et pourquoi avons-nous conscience d'être sur Terre? Voilà. J'ignorais, en tout cas, ça a été mon cas, j'ignorais que je pouvais trouver peut-être pas des réponses directes, mais en tout cas un chemin au sein de l'Église. J'étais baptisé enfant, mais je faisais partie d'une famille qui ne pratiquait pas. On allait à la messe comme selon la terminologie usuelle, toutes les morts d'évêque, c'est-à-dire pour les mariages, pour les communions. Voilà, c'est oui, plutôt c'est des rencontres familiales. Voilà, oui. Et donc j'étais loin, à la fois loin de l'Église et loin de la foi, et j'ai cru que la franc-maçonnerie pouvait m'ouvrir ce chemin que je recherchais fondamentalement. En fait, j'explique dans un de mes ouvrages à la fois que ce chemin maçonnique conduit à une impasse et en même temps qu'on n'en a pas vraiment conscience. En fait, on est pris par les rituels, on est pris par la pseudo-fraternité
et puis
maçonnique.
Cette soif de secret, quoi, cette envie de percer le secret, hein, c'est ça?
Exactement. Vous avez entièrement raison de soulever ce point parce que il y a une sorte de, comment dire, de système de carottes et de bâtons, comme on l'utilise dans certains contes pour les ânes. Alors, je ne veux pas dire que les francs-maçons sont des ânes, mais en tout cas, il y a toujours la menace d'un châtiment. Mais en même temps la promesse d'une récompense, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous rentrez, vous êtes apprenti, vous êtes initié, et puis on vous dit, mais tu comprendras bien et bien mieux tous les symboles du premier degré d'apprenti lorsque tu seras compagnon.
Et donc, ouais, donc ça incite à rester.
À chaque grade, c'est la même chose. Et ensuite, quand vous devenez maître, on vous propose éventuellement, parce que pour aller dans les hauts grades, c'est extrêmement restrictif. Déjà, rentrer en franc-maçonnerie est restrictif, mais alors les hauts grades, ça l'est encore plus. Et on vous dit, si un jour tu accèdes dans les hauts grades, alors là, tu verras le chemin s'éclaircir.
Tu verras tout.
Et tu comprendras beaucoup mieux le grade de maître. Voilà. Donc, il y a toujours cette passion.
Qu'est-ce que cette culture du secret dit de la lumière et des ténèbres, du bien et du mal?
Je démontre dans mes ouvrages, je n'aurai peut-être pas le temps de disserter sur le sujet, mais je démontre que les notions de bien et de mal sont complètement inversées en franc-maçonnerie par rapport à celles que nous connaissons dans l'Église. Je citerai de mémoire le rituel du 32e degré, me semble-t-il, 30e ou 32e, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est dans les plus hauts grades, où on vous dit, tu seras parfois amené à faire du mal pour qu'il en résulte un bien, et parfois, tu seras amené à faire du bien, mais il en résultera du mal. Voilà. En fait, les notions sont complètement inversées, et c'est d'autant plus compréhensible qu'il n'y a pas de morale en franc-maçonnerie. Nous, dans l'Église,
il n'y a pas une frontière entre le bien et le mal.
Il n'y a pas de frontière. En fait, dans les rituels, en tout cas dans celui de et les commentaires sur le rituel, commentaires qui sont faits par les auteurs les plus éminents de la franc-maçonnerie, comme Oswald Wirth, par exemple, on vous dit le maître. C'est-à-dire le franc-maçon qui est arrivé à la maîtrise et qui a passé donc l'élévation à la maîtrise, qui a subi le rituel d'élévation, est totalement autonome. Il ne dépend de personne et on va avoir confirmation au 30e degré, qui est le degré le plus élevé d'un point de vue initiatique. Après, vous avez le 31, 32, 33, qui sont plutôt des degrés administratifs ou de stratégie maçonnique. Alors, je parle bien sûr du rite écossais ancien et accepté, mais on retrouve à peu près les mêmes choses avec des dénominations différentes dans les autres rites. Eh bien, dans le 30e degré, on vous dit le titulaire du 30e degré, d'abord, s'appelle Kadosh, c'est-à-dire il est saint. Il a pour autre nom Adonai, donc c'est un dieu, il est devenu dieu, et par là même, il est capable de définir lui-même, c'est dans les rituels, hein, ou dans les commentaires de rituels, il est capable lui-même de définir le bien et le mal. Donc nous n'avons plus besoin de Dieu lorsqu'on est 30e degré ou lorsqu'on
on
est
maître. On se retrouve au paradis originel où il y avait cette interdiction de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et là, les francs-maçons, eux, s'affranchissent en fait de cette interdiction.
Je dirais même que c'est comme les Dupont et Dupont de Tintin, je dirais même plus. C'est-à-dire que non seulement ils s'affranchissent, mais ils conduisent vers le mal. Ils conduisent
en
vers
plus,
le mal.
Oui, c'est ça. Ouais, avec une transmission.
La plupart des francs-maçons n'en ont aucune conscience et je peux en témoigner puisque j'ai vécu de l'intérieur. Ce qui est troublant.
Oui, il y a un aveuglement.
Voilà, ce qui est troublant. On va prendre comme exemple pour illustrer ce que je viens de dire et que pour que les auditeurs comprennent beaucoup mieux la nature de la franc-maçonnerie. J'explique dans mes conférences et dans mes livres que l'initiation maçonnique, c'est-à-dire notamment le premier degré, c'est-à-dire lorsque vous rentrez en franc-maçonnerie, mais ça, on va retrouver ça après dans différentes cérémonies, mais en particulier l'initiation est une négation de l'infusion de l'Esprit-Saint lors du baptême. On a par exemple des phrases rituelles qui sont données par des officiers de la loge, notamment le Vénérable Maître. Lors de l'initiation, il y a toute une série d'épreuves qui sont subies par le candidat. Et au terme de ces différentes épreuves, eh bien, il y a le don de la lumière. Alors, autant dire tout de suite que je démontre qu'il s'agit de la lumière luciférienne et non pas de la lumière de l'Esprit-Saint.
Oui, on s'en doute.
Voilà. Dans le rituel, pardon, que je vais vous paraphraser, le Vénérable Maître demande donc au parrain du candidat que soit ôté le bandeau, parce que toute la cérémonie d'initiation est faite avec un bandeau sur les yeux. Donc on ne sait pas
alors
ce qui
se passe.
Alors ça,
j'aimerais bien, Serge Abad, qu'on garde justement toute cette cérémonie du rituel d'initiation pour la deuxième partie de notre émission. J'aimerais bien qu'on prenne quelques points, quelques vérités qui sont données par la franc-maçonnerie et qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. Et si on, parce que certaines obédiences maçonniques se disent déistes, d'autres se disent chrétiennes, d'autres se disent christiques, elles détournent des vérités de la foi chrétienne. Et je voudrais qu'on commence par l'identité du Christ. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu et fils de Dieu. Et que disent les francs-maçons de Jésus ?
Alors, vous avez raison de présenter la franc-maçonnerie sous les, notamment deux aspects, laïque et déiste. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans les obédiences laïques, il est absolument interdit de parler en loge de religion. Donc, exit Jésus-Christ. Voilà. Pour les obédiences laïques, lorsqu'il est fait référence à Jésus-Christ, alors je prends de mémoire quelques commentaires de ces rites laïques, par exemple le rite français. Pour le rite français, la Bible est une série de légendes. Donc Jésus-Christ est un personnage mythique. Au mieux, c'est un prophète lorsque la réalité de son existence n'est pas niée. C'est un prophète au même titre que Confucius, Bouddha, Mahomet, etc. Mais ça n'est en aucun cas le fils de Dieu, puisque en loge, en particulier dans les obédiences laïques, on ne parle jamais de Dieu. On n'évoque pas non plus le grand architecte de l'univers, ou peut-être dans certains hauts grades, mais généralement dans les trois premiers grades qui sont dans les loges bleues, dans ces obédiences laïques, il n'est absolument pas question de Dieu. Et donc pas de Jésus. Dans les obédiences déistes.
Dans votre livre, vous écrivez que Jésus devient Dieu par une série d'initiations. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire.
Voilà. Alors, cette phrase est fondamentale. Je vais vous la citer in extenso. C'est un texte maçonnique qui provient donc d'un membre d'une obédience déiste. Alors parmi ces obédiences déistes, certaines se disent chrétiennes. Donc toutes les obédiences déistes ne sont pas forcément chrétiennes, mais les obédiences chrétiennes sont forcément déistes. Quand je dis déiste, là je mettrai également des guillemets, puisqu'il s'agit du grand architecte de l'univers. Il ne s'agit pas du dieu Trine. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, la notion de Dieu en franc-maçonnerie est complètement différente de celle que nous connaissons au sein de l'Église. Pour l'Église, Dieu s'est révélé. C'est-à-dire que l'homme ne connaît pas Dieu. Il en a peut-être une vague, une vague idée, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Et Dieu se révèle. Donc là, il sait que Dieu existe et qu'il se manifeste à l'homme. Ensuite, Jésus s'incarne et donc il vient sauver les pécheurs. Donc on a dans l'Église, je dirais, la preuve que non seulement Dieu existe, qu'il nous aime et qu'il nous aime jusqu'au sacrifice ultime pour partager nos souffrances. En franc-maçonnerie, rien de tel. En franc-maçonnerie, c'est le grand architecte de l'univers. Et alors, ce qui est troublant, c'est que j'explique dans mon livre, puisque il est consacré aux obédiences déistes et en particulier aux obédiences chrétiennes, eh bien, on nous dit quelque part, c'est dans le rituel de ces obédiences qui se disent chrétiennes. Alors, je vous donne la citation. « Tout maçon de quelque communion chrétienne, pays ou condition qu'il soit, est ton frère et a des droits sur ton assistance. » Ça, c'est lorsque le candidat devient apprenti dans cette loge chrétienne. Et donc, moi, j'ajoute « et les autres hommes ». C'est-à-dire que on a là l'essence même de la franc-maçonnerie qui considère que l'humanité est divisée en deux parties, les initiés et les profanes.
Et les autres.
Voilà, les autres sont des gens qui ne sont pas initiables. Alors en cela, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est pas le sujet essentiel que vous me posez. C'est totalement conforme à la philosophie du gnosticisme.
Et c'est ce que vous décrivez dans votre livre, vous dites que la franc-maçonnerie tend à réserver le message christique aux initiés les plus secrets. Donc il y a vraiment ceux qui ont accès finalement à une sorte de révélation, et là je mets des gros guillemets, et puis ceux qui sont les profanes, qui sont ceux finalement qui n'ont pas accès
aux secrets. Pour rejoindre la question que vous me posiez, en quoi les deux philosophies, entre guillemets, divergent. Eh bien, Jésus, si je peux parler de philosophie christique, en fait, le message de Jésus, c'est, je cite de mémoire la Bible, « Je te remercie, Père, d'avoir révélé cela aux tout-petits, de l'avoir caché aux savants. » C'est-à-dire que on est dans ce que nous dit saint Paul, la folie des hommes est telle que Dieu a voulu les rendre sages par une plus grande folie, c'est-à-dire la folie de la croix. D'accord. Cette notion de Dieu pour la franc-maçonnerie et partant donc la notion de Jésus est complètement différente par rapport à l'enseignement du Christ. Les francs-maçons ne se préoccupent pas des plus petits. D'ailleurs, je témoigne n'avoir rencontré pratiquement jamais en 24 ans de franc-maçonnerie aucun plombier zingueur, aucun artisan, ou du moins aucun ouvrier maçon opératif de chantier.
Qui ont du pouvoir.
C'est ça. J'ai à ma disposition la liste d'une obédience, d'une loge, de la Grande Loge de France de Lyon, où on voit 90% des francs-maçons qui sont...
Des personnalités politiques ou...
Voilà, généralement des cadres supérieurs, des hauts fonctionnaires, etc. Et c'est la même chose au Grand Orient, qui se prétend beaucoup plus démocratique, puisque un grand maître, il y a quelques années, déplorait le fait que, bien que le Grand Orient soit une obédience qu'on catégorise à gauche, les ouvriers et les petits employés sont très peu présents dans les loges. Donc voilà, pour revenir à Jésus et ce que vous me disiez sur l'initiation, en fait, le franc-maçon ne peut pas comprendre, en tout cas la franc-maçonnerie, la théorie maçonnique, ne peut pas comprendre que Jésus soit Dieu, puisqu'elle considère que l'initiation seule peut amener l'homme à la divinité. Et donc, par conséquent, lorsqu'elle parle du Christ, elle dit que je parle de on va dire du rituel du rite écossais rectifié, qui est un rituel qui se dit chrétien. Eh bien, dans ce rituel, Jésus, alors sous la l'écriture bien sûr d'un membre de ses obédiences, Jésus est un homme qui va devenir Dieu au terme d'un certain nombre d'initiations. Et alors, c'est assez, pardonnez-moi le terme, il est un peu trivial, mais il est juste, c'est assez hallucinant, parce que, je vous donne la citation exacte, je cite, « Homme, il s'agit de Jésus, hein, homme, avant tout. » Donc il n'est pas vrai homme et vrai Dieu, il est homme avant tout.
Il n'est pas fils de Dieu. Et...
Donc, perfectible. Donc Dieu est perfectible parce qu'il est homme, c'est quand même troublant. Il démontra une attirance très tôt pour l'ésotérisme, c'est-à-dire que Jésus se serait intéressé, on va dire, à Madame Soleil très tôt, voilà, selon la franc-maçonnerie, et il partit à la recherche de la vérité, alors qu'il nous dit, c'est textuel ça.
Alors qu'il est la vérité, le
chemin,
la vérité.
Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est d'autant plus troublant que la plupart des loges se revendiquent de l'évangile de Saint Jean, et en particulier les loges qui se disent chrétiennes. Donc vous voyez la duplicité du message.
Et alors je vous propose qu'on parle justement de juste après la pause musicale de ce rite d'initiation avec justement cette référence à la Bible et à cet évangile de Saint-Jean. Et puis vous nous direz, Serge Abad Gallardo, vous nous parlerez de ces yeux bandés, de tous ces rituels qui
c'est très important.
Maintiennent en fait le candidat dans le secret. Évidemment, dans votre livre, vous parlez de beaucoup de choses qui font que la franc-maçonnerie est complètement à l'encontre, va complètement à l'encontre de la foi chrétienne, et elle est même contre la foi chrétienne. Vous parlez du dogme de la Sainte Trinité. Vous dites que en fait les membres d'une loge maçonnique sont trompés. Ils sont même, leur mode de pensée est réinitialisé. On va voir ça juste après la pause, et je vous propose qu'on écoute La ténèbre n'est point ténèbre. On se retrouve juste après.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Dans cette émission Vivante Église, nous sommes avec Serge Abad Gallardo, auteur de La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture chez Arthège. Être chrétien et franc-maçon est incompatible. L'Église l'indiquait déjà en 1738. Le pape Léon XIII a aussi alerté sur les dangers et dans son encyclique Humanum Genius, il a publié en 1884, il parle d'un ennemi rusé et fécond en artifice. Et plus récemment, le 26 février 2024, Monseigneur Stagliano, président de l'Académie pontificale de théologie, a confirmé, je cite, que l'Église et la franc-maçonnerie sont profondément inconciliables. Alors, nous avons vu avec vous, Serge Abad Gallardo, quelques arguments théologiques hein, qui montrent bien qu'il y a une incompatibilité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mise en garde constante de l'Église ou est-ce qu'il y a eu quelques variations au long des siècles?
Alors, à mon sens, en tout cas, je ne crois pas avoir pris connaissance d'une variation dans la position de l'Église. Et c'est tout à fait compréhensible. Les francs-maçons, lorsqu'on leur objecte l'impossibilité d'être franc-maçon et catholique, nous répondent souvent « Oui, mais il y a chez nous des gens qui sont catholiques ». Alors bien entendu, si on est baptisé et qu'on se dit catholique du simple fait de son baptême, mais qu'on ne discerne pas entre l'opposition des deux doctrines, d'une part maçonnique, d'autre part catholique, mais forcément, si on va en franc-maçonnerie ou si on va à l'église comme on va au club de bridge, tout est possible. Mais
ouais, c'est ça.
En fait, l'église ne s'est pas prononcée parce que, elle ne peut pas se prononcer chaque semaine. La difficulté, c'est que la franc-maçonnerie persiste depuis 3 siècles dans ce mensonge ou cette erreur. Alors cette erreur pour les francs-maçons qui sont, je dirais, des loges inférieures, et le mensonge, je dirais, pour les dignitaires, parce que je ne voulais pas faire injure à leur intelligence et à leur connaissance en estimant qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas la position de l'Église. D'un autre côté, je fais une grande différence entre les francs-maçons en tant que personne et la franc-maçonnerie en tant que telle, en tant que doctrine, puisque les francs-maçons sont des êtres humains pour qui nous devons avoir du respect et un sentiment de fraternité.
Oui,
ce sont des gens qui sont égarés et il nous appartient de leur montrer que Jésus est la vérité. Ce n'est pas un homme qui a reçu une initiation, c'est Dieu, Fils de Dieu, venu sur terre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Mais vous parliez tout à l'heure de la Bible. En fait, il n'est pas étonnant que la franc-maçonnerie conditionne, je dirais, l'esprit des francs-maçons eux-mêmes, puisqu'elle fait une lecture totalement ésotérique de la Bible. C'est-à-dire que pour certains rites, la Bible est un ensemble de légendes. Pour d'autres rites, et c'est le cas par exemple du rite chrétien, eh bien, la Bible et le message de Jésus-Christ, et en tout cas le message de Dieu au sens large, est un enseignement ésotérique. C'est-à-dire qu'il n'est réservé, il y aurait un message caché derrière la Bible. Alors il y a plusieurs ouvrages qui traitent de ce.
Mais c'est pas une révélation en fait, c'est ça.
Voilà, ça n'est pas.
Dans ces cas-là, c'est pas la parole de Dieu, le Verbe.
Voilà, effectivement, il convient de chercher à comprendre ce que nous dit Dieu à travers sa parole. Et ça relève de la théologie, étant posé que nous sommes bien petits pour saisir l'intégralité du message divin. La franc-maçonnerie n'a pas cette précaution. La franc-maçonnerie considère qu'elle détient des secrets qui remontent, on va dire, aux âges les plus lointains de l'humanité, et que ce message est un message purement occulte, qui n'est réservé qu'à une catégorie de population capable de le comprendre. Donc déjà, on voit bien qu'il y a une opposition complète entre un Dieu qui vient chercher les plus humbles, les plus petits. Alors je renvoie par exemple au message extraordinaire de Thérèse de Lisieux, qui nous a montré le chemin de l'humilité, de la véritable humilité.
À
ma connaissance, il n'y a pas de véritable humilité en franc-maçonnerie. Au contraire, les rituels poussent le franc-maçon, je dirais presque malgré lui, il est embarqué en quelque sorte par le rituel. Il est conditionné
par
le rituel.
Et justement, puisque vous parlez de rituel, j'aimerais bien que vous nous parliez de la deuxième partie de votre ouvrage que vous avez consacré au rite écossais rectifié. Il est utilisé au sein d'obédiences qui se disent chrétiennes ou déistes. En quoi les rites d'initiation, alors on va parler parce que le temps évidemment nous manque, mais les rites d'initiation au grade d'apprenti se donnent une apparence chrétienne. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples très concrets? Alors notamment, il y a la Bible, il y a ce dont nous parlions en première partie d'émission sur cette page ouverte au premier chapitre de Saint Jean. Il y a aussi le fait d'avoir les yeux bandés, l'utilisation du latin. Est-ce que vous pourriez nous donner des rites très précis qui sèment la confusion et qui entretiennent le mensonge?
Eh bien, déjà, la franc-maçonnerie utilise le terme de lumière. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Pike. Alors certes, Albert Pike est le créateur, je dirais, du rite écossais ancien et accepté, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les rites se rejoignent tous sur le fond. Mais Albert Pike nous explique que, le franc-maçon est initié et se construit par lui-même sans l'aide de Dieu. Un grand maître d'une obédience que j'estime être au moins spiritualiste, sinon déiste, et qui a été membre de son suprême conseil, donc c'est quelqu'un qui est parmi les plus hauts dignitaires de cette franc-maçonnerie dont nous parlons, nous dit qu'est-ce que l'initiation, c'est tuer l'homme pour en faire un dieu. Alors, pour revenir aux yeux bandés, c'est un passage qui est identique, quel que soit le rite, et c'est ce qui est troublant, par exemple, dans le rite écossais rectifié qui se dit prétendument chrétien, puisque, Jésus lui-même nous dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc le message de Dieu, c'est « Je vous révèle, pour autant que vous puissiez la comprendre, la vérité. En tout cas, je vous montre le chemin et contribuez vous-même à le montrer aux autres. » Donc il y a un partage.
Et vous écrivez dans votre livre que le fait d'avoir les yeux bandés, ça désoriente l'esprit du candidat. C'est quand même fou.
Ah oui. En fait, lorsque...
Vous l'avez expérimenté.
Oui. Lorsqu'on est dans l'initiation, et là, je cite le même grand maître dont je parle à l'instant, qui nous dit les yeux bandés et la cérémonie d'initiation vous met dans un état de conscience particulier. Et c'est vrai que, alors là c'est mon témoignage personnel, mais je peux le recouper avec la plupart de ceux que j'ai vus initier, puisque après l'initiation, on fait une sorte de compte-rendu personnel que l'on exprime devant la loge, et on retrouve toujours les mêmes points communs, à savoir que on a les yeux bandés. Symboliquement, la franc-maçonnerie vous explique que c'est parce que vous êtes dans les ténèbres et que tant que vous n'avez pas la lumière maçonnique, vous ne savez pas où vous allez. En réalité, c'est sur le plan théologique bien plus compliqué et bien plus dangereux. Alors, par exemple, si je me réfère à la Genèse, et là on va voir que ça soit dans les rites autres ou les rites chrétiens, on va voir que l'initiation est, à mon avis, un moment inspiré par Satan, dans la mesure où c'est une négation implicite de l'infusion de l'Esprit-Saint lors du baptême. Je m'explique. Tout d'abord, je prends la Genèse. Que dit le serpent à Ève qui ne veut pas toucher qui veut obéir à Dieu? Le serpent, je cite la Bible, le fruit défendu, donc vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Ça, c'est ce que dit Dieu. Et Ève retransmet le message à Satan qui essaye de la tenter. Et je continue la citation, le serpent Satan répond, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, c'est important, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Connaissent, au sens biblique, signifie définir soi-même.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Donc là, on est qu'est-ce qui se passe voilà, qu'est-ce qui se passe à, voilà, ouais, qu'est-ce qui se passe à l'initiation? En fait, pour faire court, parce que effectivement nous manquons de temps, et j'ai écrit juste un livre rien que sur les rituels maçonniques des trois premiers degrés, donc je pourrais pas le résumer en quelques phrases.
Oui, parce qu'il y a quand même des symboles qui sont repris, des symboles du baptême, l'eau et le feu, par exemple.
Mais alors, si vous voulez, mais c'est très bien de prendre cet exemple sur l'eau. Le symbole de l'eau, pour la pour l'Église, c'est la pureté, au point que Marie est un symbole de l'eau. Pour la franc-maçonnerie, le symbole de l'eau, comme tous les symboles d'ailleurs, sont, on va dire, ambivalents. C'est-à-dire que l'eau, pour la franc-maçonnerie, est à la fois une source de vie, puisque la vie vient de l'eau, mais en même temps, c'est une source de mort, puisque l'eau va putréfier les corps vivants qu'on va y plonger. Donc vous voyez qu'on n'a pas les mêmes repères en franc-maçonnerie ou selon l'Église. Le symbolisme maçonnique est particulier dans la mesure où il est, comme dirait notre président actuel, source du « en même temps ». C'est-à-dire qu'une chose est vraie en même temps que son contraire. Oui, ce qui est totalement l'inverse de la philosophie, notamment d'Aristote, qui nous dit on ne peut pas accepter qu'une chose soit identique à son contraire. Soit elle est son contraire. Pour revenir à l'initiation, au terme d'un certain nombre de purifications qui sont en fait des purifications alchimiques. Ça commence par le cabinet de réflexion avec des symboles comme le soufre, le sel, le squelette, etc. Voilà. En fait, c'est destiné à influencer l'esprit du candidat. Ensuite, il y a des épreuves. Pour l'initiation, il y en a trois, qui sont des déambulations dans la loge, etc., avec du bruit, en même temps, parfois, un silence ou une musique douce.
Ça doit être assez impressionnant, quand même.
C'est assez impressionnant, oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un subir une initiation et en ressortir en faisant le fier à bras. Et c'est destiné également à infantiliser, parce que...
À soumettre, finalement.
C'est ça, la franc-maçonnerie, lorsque vous êtes apprenti, vous oblige au silence pendant un an, et donc vous êtes passif. Voilà, donc vous grimperez les degrés ultérieurs si vous êtes bien obéissant. Donc, à la fin de la cérémonie d'initiation, on fait tomber le bandeau. Donc, c'est le parrain, celui qui vous a proposé, qui, sur ordre du vénérable maître, défait le bandeau pour que vous voyiez la lumière maçonnique, encore une fois, qui, pour moi, et je le démontre, est la lumière de Lucifer, et non pas la lumière de Dieu.
Et d'ailleurs, vous citez cette phrase du vénérable maître, et il dit « Mes frères, que la joie règne désormais parmi nous, le fils de la lumière s'était égaré dans les ténèbres, il a été rappelé, il a été ramené, ses yeux se sont ouverts et les ténèbres se sont dissipées. »
Absolument.
Ça, c'est ce que dit le vénérable maître.
Absolument.
De la
Alors, c'est terrible parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis baptisé en Christ. J'ai, par la même occasion, un lien filial avec Marie, puisque Jésus est le fils charnel de Marie et en même temps le fils, il est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu.
Et la franc-maçonnerie vous considère comme étant dans les ténèbres et pas un fils de la lumière, c'est ça?
Elle considère comme nul et non avenu l'infusion de l'Esprit Saint. Donc, point de salut en dehors de la lumière maçonnique. Et cette phrase du rituel, lorsque vous êtes chrétien, vous ne la comprenez pas sur le moment, parce qu'en fait, vous êtes tellement omnubilé par tout ce qui vient de se passer et vous cherchez à comprendre ce qui se passe. Mais c'est incompréhensible parce que vous êtes dans un monde complètement différent de celui que nous vivons tous les jours. Il faut du temps.
Il y a une espèce de fascination pour tout ce monde un peu justement ésotérique, différent, et puis tous ces rituels qui doivent être quand même assez déstabilisants.
Vous savez, non seulement c'est déstabilisant, mais ça l'est d'autant plus quand vous retrouvez la foi. Tant que vous n'avez pas la foi, vous êtes pris par ce système système de rituel, et je crois que vous êtes dedans, plongé complètement, et vous y adhérez parfaitement. En revanche, quand vous retrouvez la foi...
Vous ouvrez les yeux.
Vous ouvrez les yeux véritablement sur la vérité du Christ, et là vous apparaissent des sentences maçonniques qui possèdent un sens que la Bible ne leur donne pas. Par exemple, pour mieux tromper les chrétiens et en particulier les catholiques, lors de l'initiation dans un rituel qui se dit laïque, donc même pas le rituel chrétien, on vous dit, on cite Saint Jean, frappe et on t'ouvrira, appelle et on te répondra. Donc on fait ces deux citations. Donc moi, à l'époque, j'avais encore un petit peu de culture chrétienne après ma communion.
Et oui, ça vous souveniez de cette phrase « frappez et on vous ouvrira ».
C'est ça, « frappez et on vous ouvrira ». En fait, ça veut dire quoi ? D'un point de vue théologique, ça veut dire que si on appelle Dieu, Dieu répond toujours. Si on le cherche, on finit par le trouver. En franc-maçonnerie, ça signifie pas du tout la même chose. Frapper, on t'ouvrira, ça veut dire frappe, et si tu es reconnu digne par les éventuels frères, à ce moment-là, tu rentreras chez nous. Voilà.
Ouais. Donc, au moyen d'un certain nombre de rites initiatiques.
Tout à fait. Et ça veut dire également,
du secret
dès lors que tu seras initié, si tu frappes, c'est-à-dire si tu appelles un autre franc-maçon à l'aide, il sera tenu de te venir en aide. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais je dirais que les deux contextes s'opposent complètement.
Ouais. Et c'est ça qui plaît aussi dans la franc-maçonnerie, c'est cette fraternité, espèce d'esprit de famille, non ?
Cette fraternité, je peux témoigner que c'est une apparence. En fait, c'est une apparence qui est troublante. Lorsque j'ai été initié, et c'est le cas pour tous les candidats, vous êtes accueillis, je dirais, peut-être mieux que dans votre propre famille. Le vénérable maître vous reçoit, alors après l'initiation, il y a un repas commun auquel ne sont conviés que les francs-maçons. On appelle ça des agapes. Le vénérable maître vous fait asseoir à sa droite, vous mangez à côté de lui, vous êtes honoré, et tous les francs-maçons viennent vous embrasser comme si vous étiez frères et sœurs. Donc c'est troublant, effectivement, je dis tiens, voilà des gens qui sont charitables, qui sont aimables, etc. Alors ce dont moi je veux témoigner, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être détesté par la franc-maçonnerie, notamment celle de Narbonne. Je l'ai pas fait exprès, hein, mais je suis quelqu'un d'entier et d'honnête. Il se trouve que j'occupais
le fait de dire la vérité,
c'est ça.
Vous faites des ennemis, forcément.
Oui, mais moi je transige pas avec la vérité. Je ne peux pas rentrer dans des magouilles maçonniques, notamment. Et donc j'étais haut fonctionnaire et j'ai constaté des malversations dans lesquelles trempaient notamment des politiques de haut rang et des francs-maçons également de haut rang. Ces gens-là me sont tombés dessus à bras raccourcis et, si vous voulez, je cite dans un livre que j'ai publié qui s'appelle « Franc-maçonnerie et politique », je cite un arrêt de cour d'appel de Montpellier, du TGI de Montpellier statuant en correctionnel, non pas le TGI, pardon, la cour d'appel de Montpellier, qui statue en matière correctionnelle, qui, je paraphrase la déclaration de la cour, c'est à l'occasion de la nomination de Monsieur Serge Abad Gallardo que celui-ci a dénoncé des malversations au marché public qui duraient depuis des décennies dans cet établissement public. Et son attitude a été courageuse, mais il a été démis de ses fonctions d'une manière fort peu, à la fois, alors, ils n'ont pas utilisé le terme de courtois, mais fort peu compatible avec les exigences du service public. Voilà.
En tout cas, ce que vous dites, Serge Abad Gallardo, aujourd'hui, c'est la vérité. Vous voulez ouvrir les yeux des chrétiens sur la franc-maçonnerie. Et évidemment, votre parole vous rend libre, mais ça n'est pas sans difficulté pour votre vie. Je vous remercie en tout cas parce que vous nous avez donné des clés pour comprendre cette incompatibilité entre la foi chrétienne et la franc-maçonnerie. Et j'invite les auditeurs à lire ce dernier ouvrage qui vient d'être publié chez Arthège, « La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture ». Et je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci Serge Abad Gallardo.
Merci à vous.
Et c'est notre émission Vivante Église, une émission de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.